bouddhistes, chrétiens, musulmans, tous font partie de ce pays. Tout le monde a des droits, le droit de s'exprimer, de manifester. Nous voulons donc protéger nos libertés. C'est donc la cause pour laquelle nous luttons ici.
Radio G 101.5 FM.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix. Une émission à plusieurs voix qui donne à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et peut-être aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure, deux fois par mois, le jeudi à 9h10 en semaine impair sur Radio G 101.5 FM et en podcast sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnés d'une sélection musicale. Pour ces 30 minutes à passer ensemble, il y a Anne, Pascal et Valérie. Aujourd'hui, nous avons choisi de dédier l'émission à Valentine Gobi, une auteure que nous affectionnons tout particulièrement, à la fois pour ses romans adultes, mais aussi pour son travail en littérature de jeunesse. Les thèmes qu'elle aborde, du devoir de mémoire aux transmissions familiales, nous touchent. Raison pour laquelle nous avons envie de lui consacrer l'émission tout entière. Alors c'est parti avec un extrait de « Qui touche mon corps, je le tue » publié chez Gallimard.
J'ai 15 ans et pour la première fois, je me regarde dans un miroir. Je veux dire avec attention, sans complaisance. Mon nez, profil droit, profil gauche. C'est celui de mon père. Mon menton, sa fossette, mon front large, l'implantation haute de mes cheveux, ma mère. Je découvre que ma bouche est belle. Je la touche du bout des doigts, je l'essaye, je souris. Elle ne ressemble à celle d'aucun de mes parents, elle est à moi. Je doute quand même, je m'y force, j'ai peur de ce qui m'appartient. Quel pacte est-ce que je brise quand je pense « je », quand je suis seule ? Rien qu'à moi, ma bouche, et j'en tremble. Mes yeux, l'un plus petit que l'autre. On dit qu'ils sont verts comme les yeux de ma mère. Je les scrute du mieux que je peux et je vois que c'est faux. Mes yeux sont bleus, presque gris, couleur d'un ciel d'orage. Je porte une robe tissée de coton blanc et bleu. Maintenant, je ne fixe que la robe, pas mon visage, pas mes yeux. Je pense aux mots de Sabine. Je ne fixe que la robe et un sanglot m'étouffe parce qu'elle a raison. Ma robe est laide. Je suis une vieille petite fille. C'est cette image de ma robe dans le miroir, de mes jambes maigres dépassant de la robe blanc et bleu tellement démodée qui surgira à l'instant où on enfoncera la sonde en moi. La sonde commencera par déchirer la robe avant mon ventre, avant le fœtus. J'aurai cette vision étrange et douce de la robe tombée, de moi, nue, complètement, avec la robe chiffonnée à mes pieds. Pour le moment, je n'ai que 15 ans et je vais la porter longtemps, plus de 3 années encore. Que c'est long 3 ans quand on en a 15, parce que je suis Lucie, Lux, l'autre nom de la lumière, née pour le bonheur de ma mère. Le tissu craque à cause de mon père. Il a entendu ma voix, celle que je cache et ne déploie qu'à la maison, seule avec ma mère, que j'enroule à celle de ma mère. Sa voix, la mienne, un fil vibre d'elle à moi pendant qu'elle tisse et que je pousse dans la chaîne des brins de tissu et de laine. J'ai 18 ans. Ce sont des airs stupides et doux. Les paroles nous sont bien égales, des chansons d'enfants à deux voix. Mon père, baryton amateur, écoute. Je l'ignore. Il vient de rentrer de voyage plus tôt que prévu. Nous ne l'attendons pas. Ma voix s'étire sans effort sur 3 octaves, par-dessus le bruit des canettes, des peignes, des pédales et des radotages des vieilles tantes. Ma voix est prodigieuse. Alors mon père décide de m'envoyer apprendre le chant chez sa sœur, professeure d'art lyrique, à 200 kilomètres de la maison. Ma mère se tient debout devant moi, je cherche ses yeux. Il n'ose pas se lever vers moi. Pourtant, je suis Lucie, Lux, le nom de la lumière. Ce qui attend ma mère d'absence et de nuit est atroce. J'ai peur. Je supplie mon père. Il fixe ma mère, il dit « Non ». Étrangement, les jours suivants, le soleil se lève, j'ai mal dans la peau, dans les entailles de ma peau. Je veux prendre avec moi les 65 petites poupées que mon père a rapportées de ses voyages et que ma mère a habillées de chutes de tissu. Mon père refuse. Elles sont bien ici, dans la chambre. Elles sont à moi. Ça fait partie du décor de la chambre, de la maison, tu comprends ? Ma mère va parler, j'en suis sûre. Elle ne peut pas se taire. Je ne quitte pas son visage. Je l'attends. Elle m'abandonne. Je comprends qu'on m'a trahi. Depuis toujours, j'ai envie de hurler. Ce sont les poupées de mon père, dans la chambre de mon père, à l'intérieur de sa maison. Tout lui appartient, même la laine cardée que ma mère achète aux moines, avec ses poils jaunes et l'odeur du mouton, les rideaux, les coussins, les tapis, mon jeté de lit, mes robes, toutes depuis la petite enfance. C'est l'argent des sirops, des liqueurs, et moi aussi je lui appartiens, et ma mère, son corps, sa joie, il récupère ses biens. Alors avant de monter dans la voiture qui doit me conduire chez ma tante, je brise une à une la nuque des poupées. Je n'emporte rien, seulement mon corps. Qui touche à mon corps, je le tue, je le tue, je le tue.
Mila est nue, dehors, avec Lisette, parmi le troupeau des 400 moins les mortes. Elle attend encore. C'est carnaval. Des SS s'approchent. Détaille les costumes de peau trop courts, dépareillés, usés aux coudes, aux genoux, les surplis, les coudes peu négligés, mal ajustés aux articulations, les tissus lâches. Il pointe l'index, commente et rit en soufflant la fumée de cigarette, et ça fait mal dans le corps de Mila, pour tous les autres corps. Dans la salle où Mila entre nue, un homme écarte ses mâchoires, examine sa bouche, compte ses dents, les trous dans les dents. Une prisonnière note Raos. Dans la salle où Mila entrevêtue, il y a une table et sur la table, une femme, robe relevée, cuisses écartées. Un homme scrute son sexe. L'homme plonge sa main entre les cuisses de la femme, elle tressaille. Il retire sa main, regarde ses doigts, puis les essuie à une serviette. Il ne porte pas de gants. Raos. La femme rabaisse sa robe, remet sa culotte et sort. C'est le tour de Mila. L'homme lui fait signe d'ôter la culotte. Elle s'allonge sur la table. L'homme relève la robe, palpe son ventre, fixe son pubis, saisit une brosse à dents et la passe dans les poils. « Pas de poux », traduit la prisonnière assistante. Puis il écarte ses cuisses, il va le faire. Il l'a fait à l'autre, il va le faire à elle maintenant. Il va toucher l'intérieur de son ventre. Dans le ventre, il y a l'enfant. Il va toucher l'enfant au fond de la muqueuse, avec ses ongles racler la muqueuse, griffer l'enfant. Elle serre les cuisses. Comment c'est fait dedans ? Est-ce que c'est fermé ? Est-ce que ça s'ouvre sous les coups ? Est-ce que ça a des nerfs, un enfant de 3 mois et demi environ ? Elle sait qu'il y a un tube rouge et au bout un ballon. Quelqu'un le lui a dit, une cousine ou l'institutrice, elle ne sait plus. Ce ballon, est-ce qu'il se perce comme une chambre à air ? Est-ce qu'il se ressoude ? Est-ce que le bébé va tomber ? Est-ce qu'elles savent comment s'est fait le ventre d'une femme, les formes, les consistances, les épaisseurs, les distances entre le dedans et le dehors ? Elle contracte les muscles. C'est plus vaste dans elle qu'au dehors, à cause de l'ignorance. Elle en veut à sa mère de si mal se connaître, de permettre que l'homme en blouse blanche en sache plus qu'elle. Maintenant, il va le faire. Il est plus fort et il n'y a pas d'outil pour écraser cette main, ni Trusquin, ni Rabot, ni scie. Ne me touche pas. Exactement, ne me touche pas. Mais l'homme force et le doigt plonge entre les cuisses ouvertes. Alors c'est un réflexe. Elle se referme sur lui comme une bouche, comme on mord, les deux jambes droites et dures en étau sur la main. Il gueule, l'insulte dans sa langue, puis retire la main et la fixe.
Valérie nous a lu un passage de Kinderzimmer, publié chez Actes Sud en 2013. Poursuivons avec une pause musicale particulière, puisqu'il s'agit de la lecture musicale de Muren par Valentine Gobi elle-même.
Le jour de Bayle, François éteint le réveil, saute illico du lit, il tend le bras vers la chaise, enfile en grelottant son pull, son jean, lace ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. Sa caille est sec, il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nine surgi en rêve. 6 litres de sang très rouge irriguent parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers 100 000 km de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur. Moins 12. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée, le mercure rétracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin. Ni Sylvia, ni Mom, ni son père. Ils dorment. Lui, un Big Bang s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Elle n'aura jamais eu lieu, cette cavalcade heureuse. Ses genoux plient sans effort, les rotules bien articulées aux tibias et fémurs, liées par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Nine, 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 elle bat dans ses tempes, cette fille dans sa gorge, son sexe. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure, alors qu'elle prépare le café derrière la fenêtre de sa cuisine au 6e étage. Il a repéré l'échafaudage installé pile en face, il grimpera jusqu'au toit. Dehors, c'est blanc et verni. Il marche, les poings au fond des poches, les jambes jeunes et sûres. Ses plantes de pied transmettent à son cerveau la nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la pente. À Pont-Thierry, il y a une mer de glace pareille qu'à Chamonix. François l'a vu. On a dynamité la banquise sous le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace et la banquise. Février 56 se changera en trou noir. Devant l'échafaudage, François balance ferme ses bras d'avant en arrière, fait circuler le sang pour assurer ses prises. Ses pieds, ses mains fourmillent. Quoi qu'il arrive, ce corps obéit, sec, fort, élastique. Ses articulations se mettent en branle, servent son désir, il y pense même pas. François s'élève dans le jour naissant. Il prend appui sur la moisse glacée, glissante, attrape un montant, pose à peine la pointe du pied sur la diagonale et se hisse, léger, d'une console à l'autre, courant, ouvrant et refermant ses doigts gantés sur les barres d'acier, l'instinct guidant ses jambes, un étage, deux étages en façade, montant vers la lumière à la force des phalanges, de la pince de ses doigts dont la genèse s'ancre loin in utero, l'outil fondamental, sans elle point de projet ascensionnel. Il atteint le toit, l'aurore en face. Nine s'approche de la fenêtre, cherche au dehors. François sourit. 20 muscles de son visage s'y appliquent. Maintenant, la rue scintille de reflets diamantins.
Il y a cette fille dont la mémoire l'accuse. Nina dit : je voudrais le rencontrer une fois. Je ne reviendrai pas si c'est sa décision. Au moins une fois. La mère ne lui a rien promis. Il ne veut voir personne, elle a répété. Même son ami Joao. Et vous savez comme ils sont proches. Nina dit non, je ne sais pas. Elle a vu passer sur le visage de la mère la même ombre de doute que sur celui de son père en février, surgissement d'une fiancée. Personne n'a jamais vu cette fille avant l'accident, n'a su son nom. Elle a juré cracher pourtant. Si pâle au seuil de la boutique, si tremblante, mettez-vous à ma place, Madame Sandre, rayée d'un coup de la vie de François. La mère a dit « J'essaierai ». Nine s'est coiffée, habillée, maquillée, dans le seul but de débusquer en lui les souvenirs enfouis. ce rouge à lèvres carmin, cette barrette noire dans la chevelure rousse, cette robe de laine mauve en plein juillet, c'est pour déterrer les tessons de leur histoire. Elle entre dans la chambre. Elle le reconnaît sous la barbe et malgré la silhouette étrange, là, assis près de la fenêtre. Elle dit bonjour, intimidée. Bonjour, il répond. Elle avance vers lui, subjuguée par sa maigreur, sa longueur. Ses contours neufs n'entravent pas le réveil des sensations anciennes. Elle sait ses volumes sous la chemise, ses côtes qui roulent sous les doigts. La tiédeur de laine, le chaud de la nuque, de l'aisselle. « Tu ne te rappelles pas ?» Il secoue la tête. « Ni mon visage ? Ni mon nom ? Non. » Elle est sa mauvaise conscience. D'elle, il n'a pas même cette mémoire inaltérable que la peau réveille en dépit de tout. « Je ne suis jamais venue chez toi. » Elle se dit « J'aurais dû mettre ce pantalon plein de taches de peinture que je portais le soir de notre rencontre. » Et puis elle cesse de vouloir, de résister. Elle sait soudain qu'on n'aime pas quelqu'un. On tombe amoureux de quelqu'un quelque part à un instant précis. Il n'y a d'amour possible entre eux que l'histoire amorcée sur ce quai de métro, ce jour de janvier 1956 à l'heure de pointe, produit de circonstances singulières, d'un enchaînement imprévisible, de gestes et de paroles impossibles à rejouer.
Pascal nous a lu un extrait de Muren, le désarroi de Nin devant son amant qui ne la reconnaît pas.
Pourvu qu'on se souvienne, précisément. Chaque soir avec Teresa se répétaient encore une fois les événements, les noms, les chiffres, les dates. Ne pas abandonner, parler, donner à voir et garder tous les jours des mots d'amour pour James.
Tenir, même quand ils viennent sélectionner dans les blocs directement. Qu'ils ordonnent aux femmes de défiler, robes relevées, les font courir et se moquent de la stupeur de celles qui attendent leur tour, les vieilles aux chevilles enflées, les avec de la merde, de l'urine plein la culotte, avec chaussures béantes, avec plaies purulentes, les chauves, les sans dents, les yeux jaunes, la gale dans les coudes, dans les genoux, les qui se tiennent très droites pour faire bonne impression, les bonnes élèves, pour ne pas être prise cette fois encore et se maintenir dans le groupe de droite, celui des fortes, des encore capables, des présentables à l'ennemi.
Regardez, yeux grands ouverts, ne rien oublier, se rappeler la première fois le 18 janvier, du rire du médecin devant l'exhibition grotesque, vie élégante.
Du vélo du sélectionneur, le marchand de vaches, pédalant comme un fou à travers les rangs Tsufunf.
Des larmes qui ne viennent pas dans le groupe des femmes de gauche.
De la révérence de Katia à la fin de sa course.
Du poing sanglant de Teresa qui frappe de rage le mur.
Des flammes des crématoriums brûlant jour et nuit, jusqu'à ce que la surchauffe fasse exploser l'un d'eux.
De la jubilation rentrée des femmes devant le toit déchiqueté.
Le 28 janvier, Teresa voit des centaines de Polonaises franchir la porte du camp, vers Uckermark, selon Marie-Paul. 1800 femmes. Tous les soirs, allongée la liste des choses à retenir. Cela répéter 5 fois, 10 fois. Croire qu'il est possible de garder intactes les images, les faits, les émotions. Tenir. C'était une lecture à deux voix de Kinderzimmer, non pas se rappeler les belles choses, mais se rappeler pour vivre.
Mathilde Blanc traverse le cadre des fenêtres. Elle disparaît, réapparaît, chaque fois plus lente, à la façon d'un automate en fin de course. Elle s'arrête à cause de l'arthrose, de l'effroi. Elle regarde la ruine autour d'elle, la glaise et la poussière à la pointe de ses chaussures. Son père est mort il y a 50 ans, jour pour jour, le 1er juillet 1962. Elle a voulu ce pèlerinage dans le théâtre de la maladie et aussi du plus grand amour. Mais du sanatorium d'un cours, il ne reste rien. Elle a garé sa voiture en lisière du bois. Elle a marché sous la pluie vers la façade griffée de branches, ne s'attendant à rien, je veux dire à aucune image familière, à nulle retrouvaille. C'est un saccage. Mur aux peintures dégradées de jaune pisse au noir. Béance noire des fenêtres et des portes. Parois défoncées, criblées d'impacts.
couloirs jonchés de gravats, de cailloux, d'éclats de verre. Portes arrachées, gonflées d'eau, tuyaux tordus, poutres affaissées. Mathilde Blanc parcourt la longueur du bâtiment, 200 pas somnambules. Elle les compte pour marcher droit, entre les canettes et les bouteilles au tintinement de mâts. Les courants d'air soulèvent des emballages, des sacs poubelles. Elle voit des lunettes de toilette dans les flaques, des cuvettes en émail brisées, des réservoirs de chasse d'eau retournés en cloche. Elle voit un pigeon raide pendu à l'attache d'un lustre. Elle voit la cage d'ascenseur barrée d'un ruban de plastique blanc et rouge. Et aussi, du sol au plafond, des tags indéchiffrables, des messages codés, signatures, lettres boursouflées détourées de noir, des fresques fluo, des mots obscènes et des sexes dressés grattés dans le béton. C'est trop d'images d'un coup, de couleurs, trop de signes et trop peu de sens. Le cœur s'affole, cogne dans la poitrine. Elle ne reconnaît rien.
Ancre le récit en 1962, raison pour laquelle nous avons choisi de diffuser un des standards de cette année 62, Tous les garçons et les filles, de Françoise Hardy. Écoutons maintenant un extrait de La fille surexposée, publié chez Alma Éditeur. Un texte fort, toujours de Valentine Gobi, sur le sentiment de révolte.
Aïcha allume une Casa Sports, tire sur le filtre, souffle la fumée. Elle vérifie son maquillage dans le miroir cloué sur la porte, avec des mouvements de nuque pour faire entrer tour à tour chaque parcelle du visage dans le rectangle minuscule. L'œil droit, l'œil gauche, la bouche, les deux moitiés du front. Elle ouvre la porte, chausse les escarpins à talons noirs qui font un mal de chien. Ce soir, elle veut un type pour la nuit. un coucher, 500 francs. De quoi, quand tu as payé les frais de tout et mis de côté pour ta dot, t'offrir une place de cinéma. Elle claque la porte, se campe droite sur ses jambes. Demain dimanche, on joue Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman. Le film est passé il y a 4 ans, en 1948, mais Aïcha parlait à peine français. Hier, elle a vu l'affiche, une fille en armure brillante, comme une dorade, tenant haut la hampe d'un drapeau, tête prise dans un casque en métal, mais visage découvert. Jeanne d'Arc fout les ennemis dehors, on lui a dit. Une enfant avec une épée. Ça semble incroyable à Aïcha et ça lui fait envie. Mais alors il lui faut une nuit entière, 500 francs. Elle marche vers la place centrale du Bousbire. Chaque enjambée lance des aiguilles dans ses plantes de pied. Les hommes arrivent d'un pas de promenade, il est tôt encore, ils flânent. Elle les regarde à travers la fumée. Elle n'est pas dans le jeu, pour l'instant elle observe. Il y a des Marocains, des paysans souvent qui viennent de toucher leur quinzaine et qui avancent discrets dans leur djellaba blanche ou beige. D'autres hommes à peau mate sont des marins de passage ou bien des ouvriers exposés au soleil. Ceux à peau claire sont des Français de bureau ou des soldats. Ou des juifs. Leur allure à eux est toujours pressée et ils traversent la place d'un trait, droit vers les petites maisons des juives qui les attendent à l'intérieur. Les autres prostituées vont les chercher, les hommes évaluant l'argent qu'ils ont en poche à leurs vêtements, à leurs chaussettes surtout, cuir impeccable, cire lustrée. Aïcha veut un Français. Il paye plus cher que les Marocains. Et surtout, demain, c'est dimanche. Le dimanche, les Français ne travaillent pas. C'est le jour où tu peux espérer un coucher parce que demain, c'est Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman, la fille qui décime une armée ennemie. Et même peut-être un tour à la plage, Aïn Diab, face au mausolée de Sidi Abderrahman, encerclé par la mer. Les nouveaux, on les reconnaît tout de suite. Ils ont des coups de girouette. Ils regardent de toutes parts, le sol, le ciel, les maisons, les femmes, les palmes remuées par-dessus leur tête, leurs yeux roulent effarés. Ils ne savent pas s'ils vont au spectacle ou au bordel. Ils ont entendu parler du Bousbire comme un lieu de fête, si tu veux, de débauche, si tu préfères, et les deux, tour à tour, même la première fois n'est rien décidé. Ils sont touristes, ils prennent leur temps. Ça fait des années qu'Aïcha est au Bousbire. 6, dit la date sur la carte de filles soumises. Après, il a fallu tenir, parce que la vie est chère ici. Tu payes ta chambre, tu payes la nourriture, tu payes le maquillage, le coiffeur, et tu finis par boire, comme tout le monde, pour tenir ou par ennui à fumer. Ça coûte de l'argent. Moyennant rémunération, certaines filles saines se font piquer à la place des malades, ingurgitent des médicaments en falsifiant leur identité, prennent ta place au curetage de l'utérus, tous les jours normalement, mais on sait bien qu'on va crever ta peau à force. Avec 600 pensionnaires, c'est pas si difficile de tromper son monde. Certaines filles sont ruinées, complètement. Elles ont des patronnes qui leur sucent la moelle et quand elles sont trop vieilles, elles n'ont pas d'autre choix que faire les bonnes des plus jeunes. N'empêche, au bout du compte, tu échappes à ton frère. Ton frère, c'est la mort. Vivre à un prix.
J'aime qu'il n'y ait pas de message dans l'œuvre de Charlotte Delbault. Elle est une somme de poèmes et récits sans visée autre que la restitution à l'humanité de sa propre et entière mémoire par le truchement de la langue. S'il n'y a pas de message, c'est que Charlotte Delbault ne tire pour elle-même aucun enseignement de son expérience concentrationnaire. Elle la juge connaissance inutile, son apport à la vie est nul. L'existence n'apparaît ni plus précieuse ni plus désirable après elle. Après avoir parlé avec la mort, est une douleur pure, c'est-à-dire sans contrepartie. Et si l'expérience concentrationnaire est révélatrice de la pire cruauté comme de la plus belle humanité, j'ai vu le courage, j'ai vu la générosité, j'ai vu la bonté, j'ai vu ce que les autres ont fait pour moi. Ça donne confiance dans son semblable, dit-elle à Jacques Chancel, et qu'elle souligne aussi la vanité de tant de choses apprises depuis l'enfance. Charlotte Delbault l'a su, au prix de la souffrance si grande que je me demande s'il valait la peine. Hors du champ, la lucidité acquise à Auschwitz ne sert à rien. Charlotte Delbault revient sur les apprentissages fondamentaux de la déportation, intransposables dans la vie ordinaire. Ainsi, être capable de déceler qui partagerait avec elle son pain ou son eau. Ce savoir n'a de sens que là-bas, où il était chéri comme outil de survie. Les barbelés franchis, ils pèsent seulement. Toutes les images encombrent, et le langage propre au camp, conquis au terme d'efforts inouïs, et la compréhension des comportements humains au cœur de la barbarie, parce qu'ils sont reliés à un monde désormais englouti. Il est urgent de s'en défaire. Je pense à Mila, mon personnage de déporté de Ravensbrück dans Kinderzimmer. À ses premiers mots échangés avec son père le jour du retour, elle dit « J'ai eu faim et froid ». Et il a répondu « Dans cet appartement parisien où il a vécu la guerre, moi aussi ». Et elle seule sait qu'il ne peut la comprendre. Le vain savoir du camp doit migrer jusqu'à son cortex dans le lieu de l'oubli. Et il ne lui est d'aucun secours. On voudrait, par désir de justice réparatrice, que l'innocence poliée obtienne compensation. Et si possible, pour gommer complètement le préjudice, un retour de balancier au-delà de la pente. Que l'excès de beauté venge l'extrême laideur. L'excès de force, l'assujettissement extrême. Le monde penche de ses injustices en suspens, nos cœurs aussi. Notre besoin d'harmonie exige un retour à l'équilibre. C'est aussi ce que voudrait Jacques Chancel, qui, dans son entretien avec Charlotte Delbault, tente de se rassurer lui-même en insinuant qu'en dépit de l'horreur, ou à cause d'elle, la déportation a peut-être suscité des transformations radicales et belles dans la nature humaine. Vous vous seriez passé de cette expérience, Charlotte Delbault, mais peut-être êtes-vous devenue une autre femme, êtes-vous devenue meilleure ? Jacques Chancel dit notre grand désir de rattrapage, de dédommagement qui égalise les plateaux de la balance, empêche le désespoir de prendre en nous racine. Charlotte Delbault dément. Il n'y a pas de compensation ni de consolation à la déportation. On ne revient pas meilleur. On n'est augmenté que d'effroi. La déportation est une perte sèche.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
Elle disait, on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson.
Merci pour votre écoute. Nous avons terminé cette émission avec un extrait de « Je me promets d'éclatante revanche » lu par Valérie sur le combat de Charlotte Delbault. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr, émission « J'entends des voix ». L'émission revient dans 15 jours pour écouter d'autres textes choisis pour vous et par nous. La semaine prochaine, c'est Tout compte fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite, à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.
Radio G, 101.5 FM.
Vous avez été nombreux à vous inscrire au concours de Radiovision 2022.
Il est temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés.
Rendez-vous sur radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos chansons préférées.
Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter. Alors rendez-vous sur la page radiovision.fr.
Résultat le samedi 11 juin prochain sur cette antenne dans l'émission Radiovision.
Bon vote sur radiovision.fr.
Du 30 mai au 5 juin 2022, tout Angers s'engage.
Un nouveau rendez-vous organisé par la ville d'Angers.
Retrouvez des centaines d'associations implantées dans les quartiers de la ville qui ouvriront leurs portes.
Mais aussi des événements comme le village de la fête de la récup le 1er juin sur la place Imbac.
Samedi 4 juin, vivez la citoyenneté au cœur de 5 villages implantés dans les quartiers de la ville.
Et participez à des actions comme celle du Clean Walk des Berges de Maine
ou l'entretien des 50 abris de jardin du parc Balzac. La semaine de la citoyenneté du 30 mai au 5 juin 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville d'Angers, angers.fr.
Like there's nothing left to lose. broken, struggling with these blues. Take my love and send it into space. Twist the knife into my back and run.
A healer, but sometimes it's just standing still. Stops moving like a manga will. It don't amount to much, blazing on an ounce of dust. Been there, done that, lost a bloody t-shirt. I face neglect and now my teeth hurt. I'm happy for the blue skies in the morning. Happy for the breath inside my lungs and for these legs that keep me walking. Happy that my heart is still beating. I'm happy that I'm finally eating. I'm happy that I got to speak to you this evening. I'm happy that you're happy too. I'm working hard, I found a lot of spirit in this lonely yard. But I'm happy that I'm finding my feet. People think I'm strong, but I'll admit that I'm weak. Cause in dark days you need to comfort yourself. You need to be kind, choose love, look after your health. I guess I got it wrong, a couple twists and turns ago. Sometimes it turns out you just need to learn to grow. I like the cherry blossom falling from these spring trees. It gives me air to breathe, it gave me love to choose. And I'm furious about my dreams. To live good, to live clean and to be free. I guess it's time to let you go now. I watch you fly but I still catch you when you float down.
Don't weigh me down. Don't weigh me down.
Save us.
the mushroom cloud. This is radio, no need that thing moves wild.
D'une pause. Pause classique, c'est le lundi, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur Radio G.
Il est parti aux cigarettes, l'amour que j'avais pour moi, il s'est tiré comme une mauviette, l'amour que j'avais de moi. Il est parti un beau matin, avec ses gouttes à la main. Il a filé puis disparu, au plein gré de mon insu. Je ne m'aime plus. Il était con, mais tellement beau, l'amour que j'avais pour moi. Il sentait bon le sable chaud, l'amour que j'avais de moi. Il en faisait un peu beaucoup, trop à mon goût. D'ailleurs ça ne m'étonne pas du tout qu'il se soit barré tout à coup. Je ne m'aime plus. Il m'emmènera plus à Venise. L'amour que j'avais pour moi, je lui repasserai plus ses chemises. À mon amour de moi, ah ça c'était un beau parleur qui savait toucher droit au cœur la pauvre brebis égarée que j'étais en réalité. Je ne m'aime plus. Pour moi, il est parti avec la caisse. Ah tiens, ça m'apprendra. Et pour qu'un jour je me remême, faudrait que mon amour soit à même d'aimer les autres avant moi-même. Mais comme on dit, c'est pas gagné. C'est pas demain que je vais remémer. Je ne m'aime plus.
J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés, mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Perçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si son mari veut pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène pour lui dire que cette fois c'est fini, que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas de les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait? J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. L'amour ne suffit pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène.
Radio G 101.5 FM. Throw away your gun, throw away your knife. Let us all
this ballistic affair. Not true, you're black, out of the east, and you might rest aware. You won't come say you are the best ballistic affair. Tell you, my brother. Ballistic affair. Tell you, my sister. Ballistic affair. Throw away your gun, throw away your knife. Let us all unite. Everyone is living in fear. Just do this ballistic affair. Not true, you're black, out of the east, and you might rest aware. You won't come say you are the best ballistic affair. Tell you, my brother, ballistic affair. Ballistic affair. Tell you, my sister. Ballistic affair, ballistic affair. Whoa. Show where you got, show where you knife. Let us all unite. Show where you got, show where you knife. Let us all unite. Whoa, whoa.
Solid as a rock and none of them can hurt my nose. Call them a bird. The chatty mouth, them I go get what them deserve. Yes, it's a bird. And all the wicked men shall learn. Say, good, I go triumph over evil. Make me tell you this now. Say, we never bow down, we are stand firm. Can we know, say, the table turn. And nobody come here if we stop we from climb up the ladder and go further.
Don't hear no bad man talking. Sing bam, bada, bam, bam, bam. If you don't hear and keep on shining. Sing bam, bada, bam, bada, bam. If you don't hear no bad man talking. Sing bam, bada, bam, bam, bam. Let's take it higher. It's time to fire.
Bad man, they're my parasites. I do them, I'll devour your energy. Break down your hopes and your highest expectations. Bring you down by any means necessary. Shut them out and spread funny allegations. From that you see them break down. Cabanas is the shell where you feel like in a fortress. And we've grown up in the same town. Drawn out the same street, them jealous of the success. Success, success.
If you don't hear no bad man talking, sing bam, bada, bam, bam, bam. If you don't hear them keep on shining, sing bam, bada, bam, bada, bam. If you don't hear no bad man talking, sing bam, bada, bam, bam, bam. Let's take it higher. It's time to fire.
Watch a night on the young champion. Fresh vibes and they are when they can. Make some noise for the generation. We not go wait for the Armageddon.
Watch shadow with you, don't take no long. We bond the cake once in a one song. Just the time for make the place chill down. We have to tell them we never back down.
No, we never back down.
We
never take a seat next to Satan Trump.
We just want the evil to get back on the ground. Too much evils and vampires in our town. We have to turn them and down.
So we call upon the warriors, call upon the real ones. We no fear the struggle or resistance.
Together we rise up,
keep your head and eyes up,
and wait for the chorus to come up. If you don't hear no bad man talking, sing bam bari bam bam bam. If you don't hear them, keep on shining. Sing bam bari bam bari bam. If you don't hear no bad man talking, sing bam bari bam bam bam. Let's take it higher, intent to fire.
Include me in your life,
oh, yes, with, darling.
was true.